Vous êtes sur RTL.
Des pies présidentielles ?
Alors, maître des horloges, il est 20h très précisément, pas vraiment maître des horloges, parce qu'on attend toujours la prise de parole du président de la République, ça ne saurait tarder, donc dans les minutes qui viennent, on vous rappelle le déroulement, vous suivez l'allocution, et ensuite, on la débrief, on l'analyse sur RTL, avec nos invités, notamment Louis Alliot et Adrien Quatennens. On écoute le président de la République.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire. Les 12 et 19 juin derniers, vous avez voté pour vos députés et élire notre Assemblée nationale. Je veux ici féliciter les parlementaires ayant emporté vos suffrages et j'ai aussi une pensée pour les députés sortants battus. Je ne peux d'abord ignorer la forte abstention qui nous oblige tous à redonner davantage de sens à nos actions collectives, de lisibilité au grand rendez-vous démocratique. Voter est essentiel pour la vie de la nation, pour ses grands choix, et très clairement, ce n'est plus ressenti par tous. Je ne peux pas davantage ignorer les fractures, les divisions profondes qui traversent notre pays et se reflètent dans la composition de la nouvelle Assemblée. Elles expriment des inquiétudes, le sentiment d'avoir des vies bloquées, pas de perspective dans nombre de nos quartiers populaires comme dans nos villages. Ces élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l'Assemblée nationale. Toutefois, et c'est un fait nouveau, et comme dans la plupart des démocraties occidentales, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Italie, de beaucoup d'autres, aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule. Il a manqué une trentaine de députés sur 577, et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité et j'en prends acte. Cela ne doit pas vouloir dire l'immobilisme. Cela doit signifier des accords en prenant le temps de les faire. Par le dialogue, le respect, l'exigence. J'entends et suis décidé à prendre en charge la volonté de changement que le pays a clairement exprimée. Parce que c'est mon rôle comme garant de nos institutions, j'ai échangé hier et aujourd'hui avec les dirigeants de l'ensemble des formations politiques qui sont en capacité de constituer un groupe à l'Assemblée nationale. Je crois retranscrire avec justesse la teneur de nos entretiens en soulignant d'abord que tous ont fait part de leur respect pour nos institutions et de leur volonté d'éviter un blocage pour notre pays. Je salue cet esprit de responsabilité et je souhaite qu'il s'inscrive dans la durée. La plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale, laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour. Beaucoup ont aussi fait part de leur disponibilité pour avancer sur des sujets majeurs et urgents pour votre quotidien, le pouvoir d'achat, le travail, les moyens d'atteindre le plein emploi, la transition écologique, la sécurité. Je crois qu'il est donc possible, dans le moment crucial que nous vivons, de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir. Vous le savez, je suis convaincu de la nécessité du dépassement politique depuis le premier jour. Je l'ai largement pratiqué et il répond, je le sais, à l'aspiration de nombre d'entre vous de sortir au fond des querelles et des postures politiciennes, de bâtir par le dialogue, le compromis, le travail collectif. Je souhaite donc dans les prochaines semaines que ce dépassement politique se poursuive avec clarté et responsabilité. D'abord la clarté. Cela veut dire ne jamais perdre la cohérence du projet que vous avez choisi en avril dernier. C'est un projet d'indépendance pour notre pays, la France, et dans notre Europe que nous devons rendre plus forte, qui passe par une défense forte et ambitieuse, une recherche d'excellence, une industrie et une agriculture plus puissantes par des investissements d'avenir. Un projet de progrès sociaux, en particulier pour notre école et notre santé, qu'il faut refonder, sur lesquels nous devons réinvestir. Un projet de progrès écologique, par une planification et des investissements assumés. un projet de sécurité et de justice, mais aussi un projet responsable, c'est-à-dire crédible et financé. Pour ce faire, dès cet été, il nous faudra prendre, nous le savons, des mesures d'urgence pour répondre aux besoins du pays et de votre quotidien. Une loi pour le pouvoir d'achat et pour que le travail paie mieux. Des premières décisions pour aller vers le plein emploi, des choix forts sur l'énergie et le climat, des mesures d'urgence pour notre santé, qu'il s'agisse de notre hôpital ou de l'épidémie. Tous ces progrès ne sauraient être financés ni par plus d'impôts, ni par plus de dettes budgétaires et écologiques. C'est pourquoi notre pays, plus que jamais, a besoin de réformes ambitieuses pour continuer de créer plus de richesses, plus de travail et innover davantage. Ça, c'est la clarté. La responsabilité, ensuite. Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation, qui concerne toutes les forces politiques, à commencer par la majorité présidentielle, mais toutes les autres, mais aussi les forces vives, les partenaires sociaux, les élus, les associations, nous tous. Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action ? S'engager à voter simplement certains textes ? Notre budget ? Lesquels ? Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Demain et vendredi, je vous représenterai au Conseil européen, où nous allons examiner en particulier la question décisive de la candidature à l'adhésion de l'Ukraine à notre Union européenne et du contexte géopolitique. Dès mon retour, à la lumière des premiers choix, des premières expressions des groupes politiques de notre Assemblée nationale, nous commencerons à bâtir cette méthode et cette configuration nouvelle. Voilà, mes chers compatriotes, ce que ce soir je voulais vous dire. J'ai confiance dans l'esprit de responsabilité de tous. J'ai surtout confiance en vous, en nous. Vous avez, en avril et en juin, fait deux choix clairs, et j'en prends acte. Ma responsabilité, c'est de les faire vivre. Et de les faire vivre à votre service pour que la France soit plus forte et que les réponses soient plus adaptées, construites différemment, mais plus adaptées aux défis de votre quotidien et du pays. Je n'aurai qu'une boussole, que nous avancions au service de l'intérêt général. Et j'ai confiance parce qu'ensemble, nous avons traversé tant de crises, tant de difficultés ces dernières années, que je sais que tous ensemble, nous trouverons le chemin de la réussite collective. Je vous remercie. Vive la République et vive la France.
La prise de parole, l'allocution du président de la République Emmanuel Macron qui a donc duré 8 minutes tout pile. Allocution qui était très attendue 3 jours après la perte de sa majorité absolue. On va prendre le temps de décortiquer tous les mots, toutes les phrases, parce que tous les mots ont un sens dans ces 8 minutes d'allocution du président de la République. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec les voix de la politique sur RTL, les éditorialistes dont refait le monde et nos invités de l'opposition qui seront en ligne avec nous dans quelques minutes. Benjamin Sportouche, chef du service politique, le président entend les fractures qui ont été révélées par les élections législatives. Il veut gouverner différemment, il tend la main à l'opposition et il met la balle aussi dans le camp de l'opposition.
Exactement,
en quelque sorte.
C'est la nouvelle méthode Macron, quelque part, ce que vient de nous expliquer le président de la République. Nous devons apprendre à gouverner et légiférer différemment et vous l'avez dit, eh bien, il veut aller approfondir le dépassement politique en disant, bien, à vous maintenant de nous montrer, groupe d'opposition, que vous avez la volonté de faire avancer le pays en vous alliant à la majorité relative, celle qui a été, qui est quand même majoritaire dans le Parlement, il l'a souligné en début de son intervention. Mais en fait, qu'est-ce qu'a essayé de faire le président de la République, et c'est ce qu'on supputait tout à l'heure dans On refait le monde, eh bien, c'est de tourner, de tenter de tourner à son avantage une situation qui ne l'est pas.
Il essaie de reprendre la main.
Oui, complètement, en disant je suis, eh bien, l'artisan du dépassement politique. C'est moi qui ai montré cette voie-là. Eh bien, quelque part, vous êtes entré dans ce sillon-là, vous m'accompagnez. Donc, c'est quand même assez incroyable, j'allais vous dire. Il n'est pas du tout défaitiste. Il nous dit, écoutez, finalement, vous validez ma position initiale, qui est que les partis, eh bien,
en
c'est
fait,
pas
le président
fondamental.
De la République a répété exactement ce que Xavier Couture allait... avait anticipé juste, bah, avant, juste avant la locution. Vous êtes plume du président, Xavier, vous vous cachez, c'est
non,
ça.
Non, mais ça n'était pas très, très difficile à anticiper. Ce qui m'a frappé dans le discours, c'est effectivement, il a répété tout ce qu'on attendait qu'il puisse répéter, y compris la main tendue à la coalition ou à un gouvernement plus. Conjoncturel en essayant de faire passer les lois les unes après les autres. Il a quand même hiérarchisé un certain nombre de points, déjà en nous revendant la loi sur le pouvoir d'achat, en replaçant la loi sur l'environnement au centre. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il a commencé en réaffirmant sa légitimité. J'espère que ça ne vous a pas
bien
échappé.
Sûr.
Il a rappelé d'abord qu'il avait été... Vous avez manifesté...
Et il a redéroulé son programme à la fin.
Exactement, il a redéroulé son programme et il a réaffirmé sa légitimité. C'est ce qui lui permet aujourd'hui de se placer, comme le disait Benjamin, au centre du jeu de l'interprétation de la Constitution à la lumière de ce qui s'est passé pour les législatives. C'est assez malin. Hein.
Alors, on s'interrogeait, avant cette allocution, on se demandait comment le président de la République allait pouvoir gouverner. On n'est pas beaucoup plus avancé après cette allocution à 20h10. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait plusieurs options sur la table. Et il les a évoquées, ces options, Emmanuel Macron. Soit une alliance de gouvernement, une coalition, un gouvernement donc construit avec d'autres forces politiques qui viendraient le rejoindre, soit des alliances au cas par cas. Il a évoqué les deux options, Vincent Derosier, et il dit, c'est important, je crois pouvoir trouver une majorité plus large.
Et c'est ce que je retiens de cette intervention, c'est qu'il a positivé et il a minimisé le score du deuxième tour des élections législatives. Il a fait passer plusieurs messages. On n'a pas gagné, nous, dans la majorité, mais aucune force politique n'a gagné. Ensuite, il dit, il nous manque une trentaine de députés. Moi, j'en compte 44. Il parle de coalition et de majorité plus large. Il enterre aussi, comme les autres, le gouvernement d'Union nationale parce que ce n'est pas la peine. Ce qui est amusant aussi, c'est quand il parle de la cohérence du projet d'avril dernier. Donc, en fait, c'est une façon de dire, bon, j'ai bien entendu ce qui s'est passé pendant les législatives.
Mais on va quand même appliquer mon programme.
Mais ce qui compte, c'est l'élection d'avril dernier. Ce n'est pas cette histoire de deuxième tour de législative où, effectivement, je n'ai pas la majorité pour gouverner.
Alors, un premier invité avec nous pour réagir à la prise de parole du président de la République, c'est Adrien Quatennens, réélu député du Nord avec 65% des voix dimanche, député NUP insoumis. Bonsoir.
Bonsoir.
Quel est votre regard sur cette prise de parole d'Emmanuel Macron ? Vous avez rencontré ce matin Emmanuel Macron, comme plusieurs leaders d'opposition ces deux derniers jours. Est-ce que vous vous attendiez aux mots du président ?
Non, c'est-à-dire qu'en sortant de l'Élysée tout à l'heure, j'étais absolument incapable à l'issue de dire ce qu'il dirait s'il devait parler aux Français. En attendant, ce que je vois, c'est qu'il commence son allocution par une erreur de diagnostic qui explique l'erreur de toute la suite du propos. Il commence son allocution de ce soir en disant « Le 24 avril, vous m'avez élu sur un projet très clair ». Moi, j'ai eu l'occasion de lui dire, et d'ailleurs, il n'avait pas invalidé mon diagnostic tout à l'heure dans la discussion, que le 24 avril, précisément, ce qui s'est produit au deuxième tour de la présidentielle, c'est que beaucoup de Français sont allés en effet saisir et utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron pour le mettre dans l'urne, mais ils ne l'ont pas fait pour l'élire sur son projet. Ils l'ont fait pour faire barrage à ce qu'aurait été la catastrophe de l'accès au pouvoir de l'extrême droite.
Voilà. Ça veut dire que vous avez l'impression que là, le président de la République, il fait du « en même temps », une nouvelle fois, « en même temps, je vous ai entendu, il y a des fractures dans le pays, mais en même temps, j'ai gagné l'élection présidentielle, donc c'est mon programme qui doit s'appliquer ».
C'est-à-dire que le résultat de dimanche soir, qui est une défaite, une claque, une déroute électorale inédite, je veux dire, c'est la première fois qu'un président élu au mois d'avril n'a pas la majorité au mois de juin et perd quelques 150 parlementaires. Donc c'est une défaite historique totale. Et elle est finalement la conséquence du fait que le 24 avril, précisément, les gens n'ont pas fait un choix en faveur du projet d'Emmanuel Macron. Je veux dire, il n'y a pas de majorité sociale, de base politique dans ce pays pour appliquer ce à quoi le président s'est avancé, c'est-à-dire la retraite à 65 ans, le travail en contrepartie du RSA, voilà. Donc, la situation de blocage, finalement, je trouve qu'il en pose un très mauvais diagnostic ce soir.
Le chef de l'État qui interpelle aussi les oppositions, dont vous faites partie, Adrien Quatennens, il demande aux groupes politiques de dire en toute transparence, je le cite, hein, jusqu'où ils sont prêts à aller. Vous êtes prêts à aller jusqu'où ?
Mais écoutez, comme je l'ai fait tout à l'heure dans notre entretien à l'Élysée, je lui retourne la question. C'est le monde à l'envers, en fait. La situation politique et institutionnelle que nous avons sous les yeux est l'exact inverse de celle qu'a connue Emmanuel Macron dans le quinquennat précédent. Dans le quinquennat précédent, l'exécutif était tout puissant et le Parlement était affaibli. Il était la chambre d'enregistrement compte tenu de la majorité pléthorique dont il disposait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'exécutif qui est affaibli et le Parlement qui est en force et donc en situation de prendre l'initiative. Donc plutôt que de voir Emmanuel Macron nous demander à nous ce que nous sommes prêts à faire, je lui demande à lui. Si demain, par exemple, les députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale déposaient une grande loi d'urgence sociale avec l'augmentation du SMIC, le blocage des prix, toutes ces choses ô combien nécessaires, est-ce que le président de la République appellerait ses troupes à le voter ou alors ferait-il obstruction ? Il faut renverser la logique. La situation de blocage, elle est le fait d'Emmanuel Macron, pas le fait des parlementaires élus lors du scrutin de dimanche. Faut pas se tromper.
Ce que vous nous dites là, c'est qu'il peut y avoir des compromis, mais il faut que ça fonctionne dans les deux sens, c'est ça ?
Mais c'est-à-dire que on a connu par le passé, dans les 5 années qui viennent, des moments où dans un projet de loi, on nous met quelques éléments qui justifieraient le fait qu'on vote avec le président de la République et sa majorité, mais qui, dans le même texte, nous font avaler des couleuvres. Moi, je demande au président d'être très clair et d'aller vite. Je veux dire, il n'y a pas besoin de mégoter. Moi, nous ne sommes candidats à aucun arrangement, aucune combine avec lui. Je lui ai dit, d'ailleurs, l'idée d'une grande coalition, d'un gouvernement d'union nationale, mais tout cela n'aurait absolument aucun sens. Ce serait incohérent. Précisément, nous pensons-nous qu'il faut un gouvernement alternatif pour changer de politique et réparer les erreurs qu'a commises Emmanuel Macron. Je veux dire, en toute hypothèse, nous avons à demeurer l'alternative disponible pour gouverner le pays le moment venu. Après, je lui ai dit aussi, nous ne sommes pas une opposition principielle, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est Emmanuel Macron qui est à l'initiative que nécessairement ce qu'il fait est mal. Mais dans le quinquennat précédent, on n'est pas vu qu'il ait pris de très bonnes initiatives. Donc là, que va-t-il faire ? Et la première chose à faire, et je crois que c'est la plus importante à retenir ce soir, c'est que, pardon, mais gouverner peut pas être en France le fait du prince. Donc Madame Borne hier, tirant conséquence du résultat de dimanche, a remis sa démission au président de la République. Il l'a refusée. À cette heure, nous ne savons toujours pas, et le président de la République n'est pas capable de nous dire si oui ou non la première ministre va engager la confiance du gouvernement devant le Parlement.
Vous avez l'impression qu'il temporise jusqu'à cette date du 5 juillet où il y aura soit un vote de confiance, soit un vote de défiance, puisque vous avez déjà annoncé que vous pourriez déposer une motion de censure.
C'est-à-dire que si la première ministre ne se soumet pas à un vote de l'Assemblée, évidemment que la motion de censure est une des capacités à provoquer ce vote, en quelque sorte. Et oui, c'est une disposition dont nous pourrons utiliser.
Juste un mot, Adrien Quatennens, parce que vous vous êtes entretenu avec le président de la République ce matin. Et à la sortie, vous avez expliqué au micro que vous lui aviez fait remarquer que certains de ses ministres disaient sur les plateaux de télé que les Insoumis ne faisaient pas partie de l'arc républicain. Qu'est-ce qu'il vous a répondu ?
Écoutez, je me suis dit, je me trouve devant le chef de tous ces gens qui prennent la parole et disent des sottises à notre propos. Donc je vais lui demander à lui sa position, mais peut-être qu'elle vaudra clarification. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, après le premier tour de l'élection présidentielle, je vous ai entendu féliciter la clarté des propos de Jean-Luc Mélenchon face à l'extrême droite. Nous étions d'un coup ceux qu'il fallait applaudir, les fréquentables. Puis les élections législatives sont arrivées et dans vos rangs, et y compris les plus éminents d'entre eux, des membres du gouvernement, se sont amusés à dire autre chose, que nous étions hors du champ républicain, tout cela. Pas plus tard que ce matin, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Olivier Véran, sur BFM, mettait un signe égal entre RN et LFI. J'ai donc dit à monsieur le président de la République, quelle est votre position ? Il m'a dit, pour ce qui me concerne, je considère en effet que votre force politique est dans le champ républicain. J'espère que tout le monde l'aura entendu parmi celles et ceux qui, de fait, compte tenu de ce qu'est leur parole, parle en quelque sorte en son nom.
Dernière question, Adrien Quatennens. Est-ce que vous craignez, vous, force d'opposition ? Aujourd'hui, vous avez une possibilité de jouer le bras de fer avec le président, de le bloquer en quelque sorte. Est-ce que vous craignez quelque part qu'il arrive à trouver cette fameuse majorité, puisqu'il montre sa confiance ce soir, qu'il arrive à trouver ces 44 députés qui lui permettraient finalement de gouverner les mains libres comme il l'entend ?
Écoutez, c'est son affaire de la trouver. En attendant, nous avons un mandat, c'est celui d'être dans l'opposition. Et pardon, mais ça n'est pas un luxe en démocratie, l'opposition. C'est une nécessité, ça participe de la vitalité de notre démocratie. Et je l'ai dit, nous ne sommes pas dans une opposition de principe. Mais à chaque fois que les dispositions prises par le gouvernement nous sembleraient contraires à l'intérêt général ou, face à l'urgence sociale, l'urgence écologique, ne pas aller dans un sens qui nous paraît être le bon, nous serons dans une situation d'opposition farouche. Pour le reste, nous regarderons. Si Emmanuel Macron est par exemple exemple, disposé à faire l'augmentation du SMIC à 1 500 €, eh bien, nous aurons toutes les raisons de le soutenir. Mais je n'ai pas compris, à la lumière de notre entretien tout à l'heure, que c'était ce qu'il avait l'intention de faire. Et en l'écoutant ce soir, j'ai un peu l'impression qu'en fait, il met tous les groupes parlementaires au pied du mur en leur disant « Vous êtes les, en quelque sorte potentiellement les responsables du blocage, alignez-vous sur mon programme à moi ». Mais je crois vraiment que tout le monde doit comprendre que c'est la tendance inverse. C'est le Parlement qui doit interroger l'exécutif sur le fait de savoir s'il est prêt à s'ouvrir au fait que le Parlement soit à l'initiative, y compris en termes de texte de loi, et que la majorité éventuellement les voterait.
Merci Adrien Quatennens, député NUP Insoumis du Nord, d'avoir été ce soir l'un de nos invités dans cette édition spéciale. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour décrypter la prise de parole du président de la République. On vient d'entendre Adrien Quatennens, l'un des chefs de file de la NUP. On a entendu un petit peu plus tôt le président de la République. Tiens, je pose la question aux éditorialistes. Lydia Guirous, par exemple, on a la sensation que le blocage il est toujours aussi important à 20h19 qu'il ne l'était à 19h59 entre la majorité et les oppositions.
Oui, d'ailleurs, les oppositions ont toutes fermé la porte à cette idée d'union nationale, mais il le dit lui-même, qu'il ne croit pas à la nécessité de mettre en place ce gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas justifié. Il tend un piège, en fait, aux oppositions, alors qu'on est a priori dans une situation historique où le pays pourrait être dans un blocage complet avec une impossibilité d'œuvrer à l'intérêt général, d'ouvrir le chemin de la réussite collective comme il l'a indiqué. Eh bien, est-ce que ces oppositions vont être dans des jeux partisans, politiques, ou est-ce qu'ils vont permettre de faire avancer les choses? Et là, ils pourraient les mettre, démontrer aux Français que ceux qui sont pour le blocage, c'est vraiment ces groupes parlementaires qui ne pensent pas à la France, mais qui pensent finalement à leur petite boutique.
Pierre Jacquemin, c'est un piège tendu aux oppositions, en quelque sorte, cette prise de parole du président de la République?
Moi, j'ai le sentiment qu'il gagne du temps. Ça a été dit plusieurs reprises. J'ai le sentiment qu'il gagne du temps parce qu'il veut préparer une loi pouvoir d'achat et mettre face à leurs responsabilités les oppositions qui brandissent des chèques à il faut augmenter les salaires à 1 500 €, il faut baisser les taxes sur les produits de première nécessité comme le propose le Rassemblement national. Donc je dis il gagne du temps et en même temps, je note une contradiction. C'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est fait élire sur un « en même temps » en 2017, et aujourd'hui, il nous dit qu'il faut encore plus d'en même temps, alors que les électeurs m'ont dit qu'il fallait arrêter le en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même imposé à Emmanuel Macron une proportionnelle à l'Assemblée nationale. Donc, les électeurs n'ont pas demandé au groupe de la NUP et au groupe du Rassemblement national, et même au groupe des Républicains, d'aller nouer des compromis qui seraient presque parfois, pourraient valoir compromission pour certains de ces électeurs. Donc, je ne vois pas la sortie pour Emmanuel Macron à court terme. Donc, pour moi, ce soir, il n'a pas dit grand-chose, il n'a pas annoncé exactement quelle était véritablement la méthode. Parce que même quand il dit il n'est pas nécessaire, enfin l'Union nationale, le gouvernement d'Union nationale n'est pas justifié, bah alors pourquoi il a demandé aux opposants s'ils étaient éventuellement partants? En fait, il a pris un vent, comme on dit, hein, de chacune des oppositions et qui n'ont pas accepté cette proposition. Donc il dit aujourd'hui ça n'est pas justifié, mais c'était quand même une hypothèse à laquelle il avait songé. Donc tout ça participe de cette espèce d'improvisation permanente quand même chez Emmanuel Macron. On l'a évoqué, on a dit que c'était souvent un grand stratège quand même. Il est quand même là, pied au mur, sans véritable solution de court terme.
Aurélie Herbemont du service politique. Improvisation, est-ce que le mot est juste selon vous après ces 8 minutes de discours du chef de l'État?
Alors, improvisation, c'est peut-être un peu fort, mais ce qui est intéressant, qui n'a pas encore été souligné, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, il renie rien de son projet et des priorités pour les prochaines semaines, donc pouvoir d'achat, écologie et la crise des urgences à l'hôpital. Mais il fixe un cadre qui, effectivement, ne peut pas aller à tout le monde. Je pense notamment à la gauche, parce qu'il a précisé pas plus d'impôts ni plus de dettes. Ce qui, à mon avis, avec le programme de la NUP, peut être assez compliqué. En revanche, peut-être que ça peut davantage plaire à la droite, mais je ne suis pas sûre que ce soir, LR soit prêt à dire on fait une coalition, puisqu'ils n'étaient pas prêts il y a quelques heures. Je ne pense pas qu'il y ait une évolution notable ce soir. Et puis, une autre chose qu'il faut souligner, il n'a pas du tout mentionné sa première ministre, Elisabeth Borne, dont le sort est toujours entouré d'un très grand flou ce soir.
Ouais. Vincent de Rosier, le mot va peut-être être fort, mais est-ce qu'Elisabeth Borne, aujourd'hui, c'est le fusible d'Emmanuel Macron ?
Oui, c'est un fusible et en plus elle a une mission à remplir avant le 28 juin et la constitution des groupes pour aller chercher des parlementaires et rendre cette majorité relative un peu moins relative. Donc la mission d'Elisabeth Borne, elle est ultra compliquée. Notre pays a besoin de réformes ambitieuses, dit Emmanuel Macron. Pour mener ces réformes ambitieuses, il faut une majorité et c'est Elisabeth Borne qui a quelques jours pour aller débaucher des gens.
44, on le rappelle.
44, même si Emmanuel Macron n'en a vu que 30 ce soir. Et les seules inflexions, on va dire, qu'il a données, c'est je suis prêt à des compromis, des enrichissements, des amendements. Bon, ça veut rien dire. Et pour le coup, je reviens sur ce qui a été dit, il gagne du temps pour aller tenter des débauchages à droite et à gauche.
Aurélie, vous parliez effectivement de cette petite phrase sur les dépenses publiques, il faut faire extrêmement attention, ne pas alourdir les impôts, les dépenses. Ça veut dire que cette tentative, on va pas dire désespérée, mais en tout cas très compliquée, d'aller chercher une majorité, même s'il montre sa confiance, on sait que c'est compliqué d'aller chercher 44 députés aujourd'hui, elle se fera plutôt vers la droite.
Mais en tout cas, vers la gauche, avec ce cadre fixé par Emmanuel Macron, ça me paraît compliqué. Parce que pour faire un compromis sur le pouvoir d'achat, le projet de gauche, c'est quand même un panier avec des produits de première nécessité. Les prix sont bloqués, donc ça veut dire moins de rentrées fiscales pour l'État. Tout ça, ça me paraît très très compliqué à pouvoir goupiller avec la gauche à périmètre constant budgétaire, alors que pour le pouvoir d'achat, on pouvait se dire qu'Emmanuel Macron prendrait des bonnes idées éventuellement à droite et à gauche pour essayer de contenter tout le monde et de réunir largement, quitte à faire exploser les déficits et la dette. Et Emmanuel Macron n'a pas l'air de vouloir aller dans cette voie. Alors bon, c'est sa première prise de parole post-législative. C'est peut-être, il essaye de dire où est-ce qu'il en est. Peut-être qu'après, il y a une marge de négociation. Mais en tout cas, le départ me semble très compliqué avec les forces de gauche.
Xavier Couture, c'est vrai qu'il a montré sa confiance au président de la République, mais au fond, on sent quand même qu'il n'est pas complètement persuadé.
Pas totalement. Mais le paradoxe, c'est que nous avons tendance à considérer que nous aurions un résultat des législatives s'apparentant à de la proportionnelle. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. La réalité, c'est que...
Proportionnelle intégrale, ce serait quand même bien différent.
Ce serait bien différent. Ce qui s'est passé, c'est que c'était prévisible. En fait, on l'avait dit même sur cette antenne il y a quelques années. Au moment où l'en même temps est né, en même temps, c'est une sorte de magma central qui était censé progressivement manger l'aile gauche et manger l'aile droite de ce qu'on peut considérer comme étant les partis républicains. La réalité, c'est que pour pouvoir s'exprimer, l'opposition était obligée de se radicaliser à droite et à gauche. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est victime du en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Il a inventé le tripartisme, c'est pas de la proportionnelle. C'est un simple tripartisme. Pourquoi ? Parce que l'opposition ne pouvait s'exprimer que sur une gauche assez radicale et une droite
victime
assez
radicale.
Victime
de sa propre stratégie.
Ce qui est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe du en même temps. Pour séduire l'électorat de gauche, voilà un président de la République qui choisit une première ministre qui vient plutôt de la gauche en imaginant que pour les législatives, ça va l'aider. Aujourd'hui, le piège de boomerang lui revient dans la figure. Pour pouvoir gouverner, il va falloir qu'il séduise à droite. Il se trouve avec ce que vous avez appelé le fusible d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, ce n'est pas elle qui va aller parler à Catherine Vautrin, sa rivale. Hein. Donc il y a un moment où il va bien falloir que la droite puisse être séduite avec un discours de droite. Puisqu'on l'a bien vu, l'Union nationale n'existera pas et que le seul moyen de faire voter des lois au coup par coup, c'est d'avoir peu ou prou les 45 ou 50 députés qui lui manquent et qui seront piqués chez LR pour l'essentiel. Donc on est vraiment dans une espèce de c'est la mort du en même temps, parce que dans un régime parlementaire comme le nôtre, avec un président de la République qui est le chef de l'exécutif, on ne peut fonctionner qu'avec une droite contre une gauche, en tout cas deux partis, deux camps qui s'opposent. Nous ne sommes pas dans ces démocraties dont parlait Benjamin, où il y a la possibilité de faire une coalition.
Pourtant,
nous ne sommes pas
dans cette logique-là.
Il a fait le constat depuis hier qu'en recevant l'ensemble des partis politiques qui ont une capacité à être représentés, il n'y reviendra pas. Nous ne sommes pas dans une constitution qui autorise la coalition.
Pierre-Jacques Maud.
J'ajoute que dans cette intervention, il y a aussi une part de manque de courage, c'est-à-dire que renvoyer, ça a été dit, la responsabilité aux oppositions de la stabilité de nos institutions, c'est déjà se défausser de toute responsabilité. Mais on peut en plus imaginer que, comme j'ai dit tout à l'heure, gagner du temps, que d'ici au 5 juillet prochain, jours de discours de politique générale de la Première ministre. Il impose à sa Première ministre, finalement, comme il aurait peut-être pas, il peut ne pas avoir trouvé, je pense que je ne vois pas très bien comment il peut trouver de solution d'ici au 5 juillet, il peut imposer à sa Première ministre, justement, d'engager la confiance de sa Première ministre pour obliger, là aussi, à se défausser et dire bah, vous avez fait tomber ma Première ministre, mais c'est les oppositions qui ont mis dehors une Première ministre femme que j'ai nommée après 30 ans où il n'y avait pas eu de femme Première ministre. Donc, et puis, d'une manière générale, c'est la méthode Duss ce soir. Hein, c'est sur un malentendu, ça peut marcher. Non, mais sérieusement, il nous a fait ça, Emmanuel Macron, ce soir. Parce que c'était d'un vide abyssal. Il n'y a pas de proposition de méthode ce soir. Il ne nous a pas reparlé de son Conseil national de la refondation. C'est déjà pas si mal.
Les législatives sont passées par là, elles ont fait le boulot à sa place.
Olivier Boss, l'éditorialiste politique Maison, nous a rejoint. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
Votre regard, vide abyssal, disait Pierre Jacquemin. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup plus avancé à 20h29 ce soir qu'on ne l'était avant cette allocution. On n'a pas franchement de cadre. On a de la bonne volonté du président de la République. Il remet la balle dans le camp de l'opposition en quelque sorte. Mais on n'est pas plus avancé.
Non, effectivement, c'était une intervention qui était indispensable dans le contexte politique depuis dimanche soir. Mais elle est faible. Elle est faible par son contenu et politiquement, je trouve que Emmanuel Macron ne lâche rien. C'est-à-dire que il garde son envie de réformer. Il garde son programme de 2002.
Il redéroule son programme.
Il veut élargir sa méthode de 2017, c'est-à-dire d'élargir encore la majorité. Et il donne une méthode pour ça qui effectivement ambitieuse et très 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 aléatoire. Enfin, je vois pas pourquoi. En fait, ce soir, on n'a pas avancé quasiment d'un centimètre par rapport à la situation de dimanche soir. Simplement, on sait ce que le président en pense. Et ce qu'il en pense, c'est qu'il ne reconnaît pas franchement une défaite. Il fait référence aux fractures françaises.
Et on rappelle qu'il a gagné en avril dernier.
Une volonté d'ouverture.
Il rappelle sa légitimité.
Et il y a une volonté d'ouverture faible.
Je ne suis pas convaincu qu'il ait abdiqué sur le en même temps.
Qu'il ait abdiqué, peut-être
non,
pas.
Mais parce que c'est peut-être la fin qu'il est en train de... temps, mais il ne semble pas avoir abdiqué.
C'est ce soir, le en même temps. Mais bien sûr.
Il veut le en même temps.
J'allais vous dire,
c'est le en même temps qu'il a lâché.
C'est épisode 2, ou comment on dit, c'est deuxième saison. Avec le en même temps, c'est le avec. Venez avec moi et vous allez voir qu'on va pouvoir faire quelque chose, qu'on va pouvoir bâtir un compromis.
Sauf que j'entends les fractures, vous êtes différent, je l'entends, mais on va quand même appliquer mon programme.
Et vous allez voir, et moi la méthode finalement, c'est celle que je vous ai annoncée il y a 5 ans. Alors, et attention, alors il dit, lundi je reviens et je ramasse les copies. C'est un peu ce qu'il nous a dit. Alors, on va voir ce qu'il y aura dans les copies. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que les ministres, que nous disent les ministres, pour aller plus loin ce que se souvient de la Première République, c'est que on va essayer de trouver une entente cordiale avec les Républicains en les forçant quelque part à l'abstention et quelque part trouver ce compromis bancal, mais ce compromis à l'Assemblée, avec des gens qui s'abstiendraient, des députés qui s'abstiendraient pour laisser passer des projets de loi courts, qui ne soient pas trop étoffés pour pas qu'il y ait trop
vous
de discorde.
Vraiment voilà. Que les Républicains vont faire ce cadeau à Emmanuel
Macron. Mais je suis d'accord avec vous. Voilà le pari qui est fait. Est-ce qu'il sera gagnant? Je n'en sais rien. Voilà en tout
moi,
cas,
c'est la,
comment
si
on peut
si
aussi
le cas,
décoder ce que vient de dire le Président de la République.
Si c'est le cas, la stratégie est la rue.
Moi, si c'est le cas, et qu'on est dans une démocratie qui fonctionne par l'abstention d'une partie des parlementaires, honnêtement, je pense qu'il y aura un réveil assez douloureux parce que sur des projets qui, à un moment ou un autre, font appel à la solidarité nationale, et s'ils sont considérés comme hostiles aux couches les plus populaires de la population, il y aura une vengeance dans la rue. Enfin, je veux dire qu'on ne peut pas gouverner
c'est
impossible de gouverner à long terme en espérant l'abstention d'une partie suffisante de la représentation nationale.
Moi, je dirais que cette intervention de 8 minutes, elle a servi au moins à clarifier un point, c'est que ce fantasme du gouvernement d'Union nationale est désormais officiellement enterré. Voilà, on ne parlera plus de cette option et il faudra trouver...
Une allocution présidentielle, c'est un peu faible.
Et d'ailleurs, les Français n'en voulaient pas. On l'a vu dans les sondages, les Français n'en veulent pas. Ça, il a acté.
Et l'entourage, voilà. 7 Français sur 10. Emmanuel Macron n'y croyait absolument pas. Ouais. Emmanuel Macron a testé cette option auprès des interlocuteurs qu'il a eus ce matin et hier, mais sans jamais y croire. C'était pour constater une impossibilité, mais c'est...
Nouvel invité dans cette édition spéciale maintenant, c'est Louis Alliot, parole toujours aux fortes oppositions donc de cette Assemblée nationale, maire Rassemblement national de Perpignan. Bonsoir Louis Alliot.
Bonsoir.
Alors on a entendu Emmanuel Macron en quelque sorte, on le disait, remettre la balle dans le camp des oppositions. Il vous demande à vous, les groupes politiques adversaires désormais, dites-nous jusqu'où vous êtes prêts à aller pour bâtir des compromis. Vous êtes prêts à aller jusqu'où Louis Alliot?
Mais écoutez, d'abord, on pourrait dire, il respecte les oppositions, toutes les oppositions, ce qui est déjà, j'allais dire, ce qui est déjà une nouveauté, car jusqu'à présent, ces députés ne voulaient engager aucun dialogue, par exemple, avec les députés du Rassemblement national que nous étions. Aujourd'hui, nous représentons un groupe constitué de 89 élus et nous avons des propositions à faire. Jusqu'où irons-nous ? Eh bien, je lui retourne la question. Jusqu'où ira-t-il pour accepter un certain nombre de mesures de bon sens, comme le référendum d'initiative citoyenne, la réintégration des 15 000 soignants qui ont été privés de leur travail après l'épisode Covid, ou ce genre de mesures-là. Il faut aussi qu'il donne un certain nombre de signes et de gages.
Mais vous avez entendu le même discours que moi, Louis Alliot. Pendant ces 8 minutes, Emmanuel Macron, il n'a pas fait référence à des propositions du RN, des LR ou de la NUP. Il a fait référence à son programme et à ses propres propositions. Et l'idée, c'est de bâtir un compromis pour faire voter les thématiques qu'il a engagées depuis sa campagne présidentielle.
Oui, écoutez, ça fait partie. C'est le parlementarisme, c'est tout l'histoire de la République française, c'est le Parlement et l'Assemblée nationale où on discute, où on négocie, où on dialogue et où on accepte aussi l'opposition, les amendements de l'opposition et où on tolère la modification d'un certain nombre de projets qui étaient gouvernementaux à l'origine. C'est finalement le retour à la démocratie, la vraie.
Mais vous avez l'impression qu'il y a eu un signe d'ouverture ce soir ?
Non, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait un signe d'ouverture. J'ai eu l'impression d'un président bloqué qui tente de gagner 48 heures pour tenter d'amadouer 50 députés qui viendraient lui prêter main forte pour trouver une majorité.
Alors lui, il dit une trentaine, mais on a bien compté, effectivement, il faut 44 députés pour obtenir une majorité absolue. Vous pensez qu'il peut aller les chercher, auquel cas votre force de contre-proposition serait moindre?
Oui, mais je veux dire, il va les chercher, mais sa majorité absolue serait courte. Et il serait là, pour le coup, sous le chantage et l'attention bienveillante d'un certain nombre de ses amis qui tenteraient de peser encore plus que ce qu'il pèse aujourd'hui. Donc, je n'y crois, il faut bien le dire, pas beaucoup. Et j'attends de voir vendredi qu'est-ce qu'il nous concocte pour la suite.
Vous parliez de gagner du temps. Le président de la République n'a pas du tout fait référence à Elisabeth Borne, sa première ministre, aujourd'hui. Vous avez réclamé, vous, le Rassemblement national, dès dimanche soir, son départ. On a l'impression qu'on ne sait pas trop quel sera l'avenir, on va dire, d'Elisabeth Borne à Matignon.
Mais écoutez, je pense qu'elle ne pèsera pas lourd dans 48 heures au moment où il devra faire le choix d'un gouvernement susceptible d'aller chercher une majorité absolue à l'Assemblée. Voilà. Ça aura été une première ministre de transition entre la majorité présidentielle et la nouvelle majorité parlementaire qui se dessine à l'Assemblée.
Merci Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan, d'avoir été l'un de nos invités dans cette édition spéciale sur RTL. Olivier Bost, éditorialiste politique de RTL. On a entendu Louis Alliot, on a entendu Adrien Quatennens un petit peu plus tôt, le député NUP insoumis. Quand on entend les oppositions et quand on entend Emmanuel Macron, on a l'impression que cette situation de blocage, elle ne va pas se déverrouiller tout de suite quand même.
Oui, mais les deux oppositions que vous citez, c'est précisément celles qu'il ne vise pas.
Exactement.
Donc ça se joue dans des marges entre la majorité relative qu'il détient aujourd'hui, majorité minoritaire, et ces deux groupes que vous venez de citer. Donc c'est dans ces marges-là que ça peut se jouer. Encore une fois, c'est un
pari.
Mais
quand vous dites « ça peut se jouer », vraiment, c'est jouable. 44 députés, même au coup par coup, loi par loi.
Il a dit une trentaine. Je veux dire, on ne sait pas. Est-ce qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont été acquis vers les divers gauches et les divers droites ? Vous savez, on ne sait pas ce que ça a donné. Oui. Ça va être intéressant, justement, de creuser ce point-là.
Olivier ?
Et les quelques ministres se montraient plus optimistes ces dernières heures sur cette combinaison, c'est-à-dire d'aller chercher effectivement des députés. Après, la question, c'est de savoir est-ce que c'est effectivement vraiment au coup par coup, c'est-à-dire dans une instabilité totale où il faut reconstruire systématiquement texte par texte des majorités, ou est-ce qu'il y a un engagement un peu plus précis de la part de ces députés. Dans les deux cas, la majorité va le payer cher, hein, parce qu'il va falloir faire des concessions sur sur chacun des textes. Ça va être instable parce que d'un côté, vous allez donner quelque chose pour caricaturer à gauche, par exemple sur le pouvoir d'achat, très précisément. Vous allez donner une mesure qui va être dépensière, coûteuse et plutôt de gauche, et la droite va vous réclamer autre chose sur d'autres catégories. Donc cet équilibre à tenir... Moi, je suis assez d'accord, effectivement, sur le en même temps qui finit par être le grand écart. Et moi, je pense que Emmanuel Macron a cassé, en fait, deux ressorts avec les deux élections qu'on vient de vivre, les élections présidentielles et les élections législatives. Il a d'abord cassé le réflexe qui était un appel au vote raisonnable, c'est-à-dire il y a les extrêmes et il y a nous, et vous ne pouvez voter que nous, parce que sinon c'est les extrêmes et c'est le chaos. Ce ressort-là a été cassé. Et effectivement, le second ressort, c'était celui du « en même temps » qui a terminé avec un programme extrêmement flou à la présidentielle, qui n'a absolument pas été réalimenté, et il n'y a pas eu de campagne pour les élections législatives. Et donc ce « en même temps » finit par être rien. Et à quoi on aboutit avec le rien, avec une majorité relative.
Pardon, je viens de demander à un interlocuteur sur cette question des 30. Et ce qu'on nous dit dans l'entourage d'Emmanuel Macron, je vous cite, à date, donc à aujourd'hui, on est à 252 députés se revendiquant de la majorité. Alors, je vous livre ce chiffre, je ne l'ai pas vérifié. En même temps, 252, ça ne veut pas dire 30. Hein.
Ça fait
37. Donc, ouais. Enfin, on en est un peu les chiffres et les lettres.
En tout cas, ça veut dire que l'opération séduction a déjà commencé. Voilà, peut-être qu'elle a exactement. Même déjà fonctionné dans certains cas.
Tout à fait. Mais ce que disait Aurélie tout à l'heure, à mon avis, est très important. Quand il dit pas plus d'impôts, pas plus de dettes, bien évidemment que c'est une main tendue en priorité aux Républicains et à la droite, parce qu'on sait que ce sont leurs deux principaux chevaux de bataille. Donc, bien évidemment que c'est vers eux qu'il s'est adressé aujourd'hui, j'allais dire de manière un peu subliminale, mais pas tant que ça. Donc, on va voir en effet s'ils saisissent cette main-là. C'est compliqué parce que, comme le disait Lydia Guirou tout à l'heure, il va y avoir un congrès pour renouveler la direction du parti des Républicains. Donc, un enjeu interne qui pourrait tout de suite bloquer des velléités éventuelles.
Ça veut dire,
Lydia,
que ça va fixer les positions quelque part des LR, et si on veut prendre la tête du parti des Républicains, on peut difficilement accepter des compromis avec Emmanuel Macron ?
Bien sûr, ceux qui ont l'envie de prendre la tête des Républicains ne pourront pas tenir un discours qui est un discours d'ouverture et de travail en commun avec Emmanuel Macron, qui est l'adversaire absolu. Et d'ailleurs, Olivier Marleix, qui vient donc d'être élu à la tête du groupe, est un anti-macroniste ferme et farouche. Et je ne pense pas qu'il emmènera une partie des députés vers une coalition ou une entente, en tout cas en fonction des textes. Néanmoins, vous avez quand même beaucoup de députés, les Républicains, qui ont été réélus sans avoir d'adversaire LREM face à eux. Je pense notamment à Aurélien Pradier, qui n'a pas eu d'adversaire.
Sauf qu'il combat la tête des Républicains. Donc
oui,
ça va être un peu
avec,
compliqué. Et
avec
Marais,
des chances.
Le ministre pense qu'il peut être Macron compatible. Donc
avec
vous voyez,
des chances toutes relatives.
Et en 2017,
vous avez Thierot aussi, ouais. Qui n'a pas eu de...
C'est le cas de Nicolas Forissier dans l'Indre.
Exactement.
Mais attendez, voilà. Vous vous souvenez de 2017.
Et donc, il y a déjà des prises. Et par ailleurs, au niveau programmatique, rappelez-vous que pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, avant le premier tour de l'élection présidentielle, les porte-paroles de Valérie Pécresse n'avaient eu de cesse de dire il fait un copier-coller du programme de Valérie Pécresse. Donc, comment aujourd'hui, alors qu'ils l'ont accusé de faire un copier-coller du programme de Valérie Pécresse, ils ne peuvent pas soutenir le projet d'Emmanuel Macron? Ça va être assez difficile à tenir comme position.
Il y a quand même un sujet qui risque d'être un tout petit peu tricky, c'est le fait que, et ça va rappeler des souvenirs à Macron à l'époque où il était avec le président Hollande, c'est qu'il y a quand même une petite aile gauche à La République En Marche, et qui peut-être trouverait un peu étrange qu'on applique vraiment le programme des Républicains. Donc
il
peut peut-être s'inventer quelques frondeurs.
C'est effectivement tout à fait vrai. Et si on regarde l'équilibre du groupe Ensemble, globalement, il reste, ce qui était déjà le cas en 2017, il reste plus à gauche.
Il y a le tabou absolu du Rassemblement national.
Allez, on marque une toute petite pause. Je vous coupe, Lydia, j'en suis navré. Petite pause et on revient dans cette édition spéciale. On est ensemble jusqu'à 21h pour commenter l'allocution du président de la République. Et on va le réentendre, Emmanuel Macron, juste après ça sur RTL.
Julien Cellier, RTL Soir, édition spéciale.
Julien Cellier, RTL Soir, édition spéciale.
20h45, vous êtes bien sur RTL. Le président de la République a pris la parole à 20h. Il y a donc trois quarts d'heure pendant 8 minutes pour dire qu'il avait entendu les fractures du pays révélées par les élections législatives, qu'il souhaitait gouverner différemment. Le débrief continue jusqu'à 21h. Vous avez entendu nos invités, membres des différentes forces politiques d'opposition. Tiens, on va réentendre justement le président de la République avant de poursuivre l'analyse, le décryptage et le commentaire.
Ces élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l'Assemblée nationale. Toutefois, et c'est un fait nouveau, aucune force politique ne peut aujourd'hui faire les lois seule. Il a manqué une trentaine de députés sur 577 et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir, soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité et j'en prends acte.
Un morceau, un huitième en quelque sorte de l'allocution du président de la République de 20h. Alors vous le savez, pendant la campagne des législatives, un duel s'est installé. Quand Emmanuel Macron parlait, Jean-Luc Mélenchon répondait. Quand Jean-Luc Mélenchon parlait, Emmanuel Macron répondait. Eh bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole quelques minutes seulement après le président de la République. On l'écoute.
Les électeurs se sont exprimés. Ils ont en majorité rejeté les propositions des candidats du président de la République. Rien ne peut effacer cette réalité qui est celle du choix des Français. Le choix n'est pas la ratatouille. C'est un choix. Dorénavant, il ne peut y avoir d'autre réalité que celle-ci. L'exécutif est faible, mais l'Assemblée nationale est forte de toute la légitimité de son élection.
La prise de parole de Jean-Luc Mélenchon qui a donc immédiatement riposté après l'allocution du président de la République. On accueille un nouvel invité dans cette édition spéciale sur RTL. C'est Patrick Vignal, réélu député Ensemble de l'Hérault. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez d'entendre Jean-Luc Mélenchon. L'exécutif est faible, dit-il.
Vous savez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avions l'habitude d'avoir un parlementaire, un parlement qui était très fort. On donnait de suite, avec la présidence, on donnait une majorité. Et c'est vrai que vous aviez 300, 350 députés qui votaient comme un seul homme et une opposition qui pouvait aboyer, qui n'était pas entendue.
Ce n'est plus le cas.
Aujourd'hui, moi, je suis ravi qu'il y ait enfin un vrai parlementarisme à l'Assemblée. Mais quand on va plus loin, le président de la République tend la main. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse de la NUP? Parce que vous regardez que dans la NUP, il y a la LFI, et puis il y a Olivier Faure, les écolos, les Républicains. Le résultat, c'est de dire, il n'y a pas de majorité. Moi, je suis Jean-Luc Mélenchon, je fais tomber le gouvernement, je suis Premier ministre. Vous pensez que les 10 millions de Français qui ont moins de 1 000 euros, quand ils nous écoutent, ils ne se posent pas des questions? Vous comprenez pourquoi il y a 54% des Français qui ne sont pas allés voter en disant c'est leur monde à eux, c'est pas le nôtre. Donc moi, je vais dire gentiment à Monsieur Mélenchon qui se trompe. On lui tend la main. Moi, je veux discuter avec les gens de la NUP sur la réforme des retraites. Je veux discuter avec eux sur le SMIC. Je veux discuter que sur la fin de vie. Vous savez, la France est au bord du chaos. L'hôpital n'est pas au bord du gouffre, c'est dans le gouffre. Et qu'est-ce qu'on a? On a une classe parlementaire qui fait de l'entre-soi,
mais
qui,
Patrick
quelque
Vignal,
part, ça lui complaît.
Est-ce que ce n'est pas un petit peu facile de la part du président de la République, qui est aussi le garant de nos institutions et d'une certaine stabilité dans le pays, de quelque part remettre la balle dans le camp des oppositions en leur disant « Bon, bah, vous nous dites où vous êtes prêts à aller, et puis on ramasse les copies dans quelques jours. »
Mais vous voulez que je vous dise, franchement, aujourd'hui, on a une révolution parlementaire. Profitons-en. Moi, je vois pas la bouteille à moitié vide. Je vois la bouteille à moitié pleine. J'ai un président de la République qui dit aujourd'hui, OK, je n'ai pas la majorité. Je suis prêt à discuter avec vous. Le compromis, à un moment donné, il faut que chacun lâche des choses. Qu'est-ce que j'entends de Jean-Luc Mélenchon? Je vais être Premier ministre. Je suis pas dans la ratatouille. Lui qui parle de démocratie. Lui qui parle au peuple aujourd'hui. Quand on lui dit, Monsieur Mélenchon, assez asseyez-vous à la table, venez partager avec nous. Qu'est-ce qui vous dit « je veux le chaos »
Ce que dit aussi Jean-Luc Mélenchon, Patrick Vignal, c'est que le chef de l'État, en quelque sorte, aujourd'hui a redéroulé son programme, c'est-à-dire les thématiques qu'il souhaite immédiatement faire voter à l'Assemblée nationale. Il cherche des compromis pour faire appliquer son programme. C'est un peu ce qu'on sent dans son allocution, alors même qu'il a été mis... non pas, il a la majorité à l'Assemblée, mais en minorité par rapport au nombre de sièges global de cet hémicycle.
Vous voulez que je vous dise, on aura cette majorité relative pour le pouvoir d'achat, parce que les Français, une partie des Français, elle en a ras-le-bol de la tambouille politique. On l'aura, j'en suis convaincu.
Alors comment vous allez avoir la majorité, Patrick Vignal? Parce que le chef de l'État, ce soir, évoque une trentaine de députés. Nous, on a compté 44 députés à trouver, que ce soit pour créer un gouvernement de coalition d'alliance ou pour des alliances au cas par cas. Ça voudrait dire que certains députés ont déjà rejoint la coalition ensemble?
Ça voudrait dire que malheureusement, la classe politique, j'en fais partie, c'est le chacun pour soi, le sauve qui peut. Ça veut dire qu'on a perdu l'idée de la nation. Ça veut dire qu'on a perdu l'idée d'en commun. Ça veut dire que chacun a sa chapelle et qu'on a des chefs on a des leaders, comme Jean-Luc Mélenchon qui était excellent. C'est un tribun. Est-ce que vous savez que sur les marchés, les gens me disaient, monsieur Vignal, on fait confiance, on vote pour vous, mais votez pour Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on trompe les Français. Et moi, je prends ma part. Nous avons certainement pas fait tout le travail pour avoir uniquement 240 parlementaires.
Mais je vous pose la question, puisque le président de la République dit « je crois pouvoir trouver une majorité plus large ». Ce sont ses
mots,
il
affiche sa confiance. Oui, il trouvera une majorité plus large.
Mais alors, avec qui? Avec les Républicains, par exemple?
Mais il y a une partie des Républicains, je suis convaincu d'une partie des socialistes, je suis convaincu des non-inscrits, je suis convaincu des écologistes, mais je veux dire, allons plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas fendre l'armure? Est-ce qu'on ne peut pas des fois sortir des dogmes? Je vous prends l'exemple de la retraite. Pourquoi on ne se met pas autour de la table? Pourquoi le projet de loi de la retraite n'est pas donné à tous les groupes? Pourquoi on ne va pas expliquer aux Français? Pourquoi on n'a pas un ministère de la citoyenneté? Pourquoi on ne va pas chercher les maires, les corps intermédiaires et les syndicats? Je vous l'avoue, on n'a pas fait le job pendant le quinquennat qui s'est achevé. Et c'est cette chance d'Emmanuel Macron, on peut y reconnaître ça. Il va sur le terrain, il est capable d'évoluer, il est capable de changer d'avis et d'évoluer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un Parlement qui est coincé. Vous pensez que c'est l'intérêt des Français qu'on fasse le blocage quand j'entends des gens qui m'expliquent qu'il faut qu'ils allaient de mort démissionnent? Mais pourquoi voulez-vous qu'elle démissionne? Moi, j'ai besoin d'un Premier ministre fort, j'ai besoin de la transition écologique, j'ai besoin du pouvoir d'achat, j'ai besoin qu'on réfléchisse sur des projets de société. Rappelez-vous, je vous le dis à votre antenne, moi j'ai fini le quinquennat avec une loi qui n'est pas partie des ministères. Elle est partie du terrain, votée, amendée l'Assemblée. C'est cela peut-être la révolution qu'on doit faire. Et nous, le parti qui est à la majorité aujourd'hui, relative, doit aussi prendre sa part.
Patrick
Arrêtons
Vignal,
de négliger l'opposition.
Je me permets de vous interrompre parce que certains de vos propos font réagir autour de la table, en studio, nos invités, nos éditorialistes, et notamment Pierre Jacquemin de la revue Engagé à gauche, on peut le dire, Pierre Regard, vous assumez complètement, qui souhaitait vous interpeller.
Oui, Patrick Vignal, vous avez dit, et très justement, que vous pensiez à toutes ces personnes qui vivent avec à peine 1000 euros, et sans doute vous pensez à ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et puis dans le même temps, vous tendez la main effectivement aux forces d'opposition de gauche, de droite. Vous n'avez pas, et c'est tant mieux sans doute, évoqué le Rassemblement national. Mais jusqu'où vous êtes prêt à aller? Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a dit une chose intéressante. Il a dit qu'il fallait retrouver des bases de compromis, il fallait travailler à des nouvelles méthodes de travail. Mais il y a des propositions qui ont été faites dans le cadre des législatives. Vous n'avez pas beaucoup participé à la campagne des législatives, mais dans le camp de la gauche, dans le camp de la droite, il y a des propositions. La baisse de la TVA, une proposition de TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité, l'augmentation du SMIC à 1500 euros, vous êtes prêt à avancer sur ces sujets-là?
Mais moi, je vais vous répondre. Je pense que la baisse de la TVA...
Et je précise juste, je vous coupe Patrick Vignal, mais qu'à l'instant, les députés LR disent pas de chèque en blanc des députés LR, et on va faire des propositions justement sur le pouvoir d'achat la semaine prochaine. Donc est-ce que vous
voyez que
prendrez
ça
en compte les propositions des autres camps?
Je voudrais répondre à Pierre Jacquemin. Moi, pour moi, je pense que la baisse de la TVA, je pense que les gens catégorie moyenne et supérieure qui ont le moyen de payer la baguette de pain, ils devraient la payer plein pot. Moi, j'ai les moyens de payer 2 euros mon litre d'essence. Mais tous les jours, je reçoit des gens qui habitent à Galargues, qui vont travailler à Béziers, et que leur plein qui était de 50 euros passe à 80 euros, et qu'à la fin du mois, ils ne peuvent pas mener leur gamin au cinéma, moi, je veux leur donner à eux la priorité. Alors après, c'est compliqué, peut-être, mais j'estime que ceux qui ont le moins doivent avoir le plus aujourd'hui.
Augmenter les salaires, par exemple.
Mais vous savez, on en est au salaire. On est à 1300 euros, plus la prime d'activité à 1460. Oui, ce n'est pas possible de vivre avec 1400 euros quand vous avez un loyer payé, trois gamins. Mais je veux le faire avec les syndicats, je veux le faire avec le MEDEF, je veux le faire avec patron. Je suis chef d'entreprise, j'ai 8 salariés. Aujourd'hui, je me rends compte que si j'augmentais le SMIC, ça me mettrait en difficulté mon entreprise. Alors, est-ce que c'est l'État qui compense les charges? Est-ce que c'est le plein emploi? Vous savez ce qu'on a oublié tous? Je suis dans une région d'hôtellerie. Il nous manque 2000 jeunes ou moins jeunes dans l'hôtellerie.
Patrick,
on va passer
Vignal,
une convention avec les Tunisiens. Augmentons les salaires, réfléchissons
Patrick
sur
Vignal,
l'avenir du travail.
Je me permets de vous couper parce qu'il reste simplement 5 minutes dans cette édition spéciale et qu'on voudrait que tous les partis politiques présents à l'Assemblée nationale puissent s'exprimer. Donc je vous remercie d'avoir été notre invité ce soir sur RTL. Mais nous sommes aussi en ligne avec Florence Portelli, vice-présidente LR de la région Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
À l'instant, on voit que les députés LR communiquent après la prise de parole de l'allocution d'Emmanuel Macron. Pas de chèque en blanc. Et on va faire des propositions sur le pouvoir d'achat la semaine prochaine. Ça veut dire que vous prenez au pied de la lettre le chef de l'État quand il dit « bon bah, il va falloir faire des compromis, ça peut venir de chez vous ».
Oui, nous on est favorable au compromis, mais pas aux compromissions. C'est une différence sémantique et de fond importante. Ça veut dire que quand les choses vont dans le bon sens et s'il y a vraiment un esprit de construction et d'écoute, ce serait complètement idiot vu l'état du pays de claquer la porte. Et en revanche, si ça ne va pas dans le sens de nos valeurs et de ce qu'on pense être bon pour le pays, c'est non.
Est-ce que vous avez senti une volonté d'ouverture ce soir dans le discours du chef de l'État?
Non, j'ai senti de la résignation. Et si vous voulez, il dit qu'il n'y aura pas de gouvernement d'union nationale, évidemment, puisque de toute façon, il n'y arrive pas. Et puis quand il dit « je vais devoir », en fait il nous dit « je vais devoir écouter ce qu'on lui demande depuis 5 ans », entre parenthèses, pas qu'au niveau du Parlement, mais même au niveau des collectivités territoriales.
Quand il dit « je crois pouvoir trouver, Florence Portelli, une majorité plus large », ça veut dire qu'il croit pouvoir convaincre des élus Les Républicains. On ne voit pas bien comment il va pouvoir convaincre des élus RN ou NUP, donc c'est vrai que sa seule marge de manœuvre, finalement, elle est chez vous.
C'est un président 4ème République, un petit côté René Coty, donc il va essayer de chercher des alliances au gré des textes. C'est quelqu'un qui est quand même capable de faire beaucoup de revirements idéologiques selon les moments, selon l'interlocuteur. Donc quand vous dites a priori ça va vers vous, je ne mettrai pas ma main coupée.
Mais est-ce que vous, les Républicains, vous êtes prêts à voter certains de ces textes, puisqu'il a fait référence à son programme ce soir à l'Assemblée nationale?
Écoutez, cher monsieur, si vous connaissez bien son programme pendant la présidentielle, moi j'ai tendu désespérément l'oreille telle Soran et je n'ai rien entendu venir. Donc en tous les cas, si des textes vont dans le bon sens, évidemment qu'il faudra les voter. Mais encore une fois, on ne connaît pas le contenu, on ne connaît pas le contenu des textes, on ne connaît même pas le contenu du programme, parce que je suis désolée, il n'y a pas eu de débat pendant cette présidentielle. Pas de vrai débat, donc on est dans l'expectative.
Donc affaire à suivre.
Mais raisonnable.
Merci beaucoup Florence Portelli des Républicains d'avoir été l'une de nos invitées dans cette édition spéciale sur RTL. On a refait en quelque sorte l'allocution, les 8 minutes de prise de parole du président de la République. C'était à 20h. On va bien entendu tout vous résumer dans un instant avec les infos de 21h qui arrivent. Merci Xavier Couture, Lydia Guirous, Pierre Jacquemin, Benjamin Sportouche, Olivier Bost, Aurélie Arbemont d'avoir été ici en studio avec moi pour commenter cette prise de parole du président de la République. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée à tous.
Il y a que Xavier qui
répond. Bonne soirée.
Xavier, vous êtes très poli comparé aux autres. Je tiens à souligner. Dans un instant, ce sera Bonus Track avec Eric Jean-Jean et les infos de 21h. A tout de suite sur RTL.